L-I-T-E-R-A-U-E-S.
Littérature. Roman.
Mémoire.
Journal. Pour notre littérature d'aujourd'hui, Gaston Leroux et un extrait de La Poupée Sanglante. 9 juin. J'ai vu Dorga. Oui, moi qui ne sors pas le soir 10 fois par an, j'ai eu la curiosité d'assister aux danses de la belle hindoue. Je suis allé au Music Hall, il y avait, comme on dit dans le jargon, des communiqués de théâtre, une salle resplendissante. Je m'attendais à une petite danseuse demi-nue, avec quelques bijoux sur la peau, des disques au sein, une ceinture de métal et de lourds bracelets aux chevilles. Je m'attendais encore à quelques déhanchements rythmés dans un décor de pagode, enfin le genre si ennuyeux qui a débarqué en Europe avec la dernière exposition. J'ai vu apparaître une superbe créature au teint à peine ambré dans une toilette de gala à la dernière mode. Matin, le marquis aime les contrastes. La marquise et Dorga, c'est le jour et la nuit. Un jour blême à son déclin, à son dernier rayon sous un ciel du nord au crépuscule anémique. Et voici la nuit chaude, brûlante, fabuleuse, où flambent tous les feux de l'Orient. Mais plus que les bijoux qui l'étoilent, plus que la ferronnière qui étincelle sur son front dur, éclatent les yeux de cruelle volupté de Dorga. L'Orient, dans une robe de la rue de la paix, les jambes de la déesse Kali, dans des bas de soie et dansantes, un chimie que l'on écoute dans un silence oppressé. Après la dernière danse, quand la salle put respirer, une foudroyante acclamation a attesté la satisfaction des spectateurs qui en voulaient encore. Mais la belle danseuse avait disparu, assez méprisante, et ne revint plus. Les lumières jaillirent sur les visages pâles ou cramoisis au gré des tempéraments, et j'aperçus le marquis écarlate qui sortait d'une loge avec Sahib Khan. Il daigna me reconnaître. « Vous avez vu, me jeta-t-il, hein, vous avez vu, quelle merveille !» Et à ma grande stupéfaction, il me prit sous le bras. Allons la féliciter. Je me laissai entraîner. Nous fûmes bientôt dans sa loge, assiégée, mais qui ne s'ouvrit que pour nous. Cette fois, elle était demi-nue au milieu des fleurs. Le marquis me présenta. Monsieur Bénédicte Masson, un grand poète. Je ne protestais pas. J'eusse été incapable de dire un mot, je la regardais à la dérobée. Honteusement et l'air mauvais, un air que je prends souvent avec les femmes pour masquer ma timidité. Quant à elle, elle m'avait jeté un coup d'œil dans la glace et ne s'était même pas retournée. Quelques vagues paroles de politesse. Elle devait me trouver très mal habillé. Elle réclama du champagne, passa derrière un paravent et je m'enfuis, la tête chaude, les oreilles sonnantes. Je me sentais une haine farouche pour le marquis et pour tous les hommes riches qui n'ont qu'à se baisser et à se ruiner pour ramasser de pareilles femmes. Et moi, qu'est-ce que j'aurais jamais ? L'image de Christine en moi, charmante et subtile effigie ? Ah, Seigneur Dieu ! J'ai envie de me tatouer la peau comme un colonial, comme un joyeux, un cœur avec une flèche et autour, j'aime Christine. Quand je me regarderai dans la glace de mon armoire, je croirai peut-être que c'est arrivé. 10 juin. Le spectacle que me donnait Dorga m'avait empêché de prêter la moindre attention au médecin hindou, au fameux Sahib Khan qui se trouvait dans la loge avec le marquis. C'est à peine si je me rappelais ses yeux de femme, des yeux noirs de houri dans un masque barbu. Mais le marquis est descendu aujourd'hui dans la bibliothèque avec Sahib Khan, et j'ai pu observer celui-ci tout à mon aise. Sahib Khan a plutôt le type afghan. Il est beau, ils sont très beaux dans ce pays-là. Il est moins bronzé que les princes indiens des bords du Gange. Son visage sévère est entouré d'une barbe de jais très soignée qui se termine en pointe. Il a une stature puissante qui me rappelle celle de Sangor, de larges épaules, une taille fine. Il est admirablement habillé, chaussé, élégance simple, impeccable. Je comprends sa puissance sur les femmes, le trouble qu'il inspire. Il paraît si sûr de lui qu'il est à peu près impossible que l'on reste sans inquiétude en face du double mystère de ses yeux de femme et de cette bouche carnassière. Où donc ai-je déjà vu ce dangereux sourire aux dents de tigre ? Eh, mais c'est dans les portraits. Surtout dans celui de Louis-Jean-Marie Chrysostome, le premier des quatre. Et ce sourire, toujours un peu féroce, mais à une moindre puissance, il erre encore de temps en autre sur les lèvres de ce bon vivant de Georges-Marie Vincent. Tous deux se sont intéressés à mes travaux, qui consistent pour le moment à faire un relevé des documents les plus rares, les plus précieux qui se trouvent accumulés en pagaille dans un coin de la bibliothèque, et qu'il faudra classer, réunir, suivant un plan que je suis libre d'établir à mon gré et suivant mes goûts. Le marquis est loin d'être une brute. J'ai trouvé en lui non un collectionneur averti, car cette collection ne lui doit rien, ou à peu près, mais un véritable érudit très au courant du mouvement littéraire depuis deux siècles. Ceci, je ne puis le nier, un homme qui, dans ses voyages, s'est toujours intéressé aux bibliothèques. Nous avons eu une longue discussion sur celle de Florence et sur le manuscrit de Longus, et sur la fameuse tache d'encre de Paul-Louis Courier. Il ne donne pas raison à Paul-Louis, qui traite bien à la légère un pareil crime. Je ne savais pas le marquis si amoureux de Daphnis et de Chloé. Mais tout cela, c'est de la littérature. La réalité, c'est d'orga. Ainsi pensais-je. Et telle était aussi sans doute la pensée de Sahib Khan, dont le sourire s'élargit sur l'éclatante menace de sa mâchoire de bête fauve. Ils s'en allèrent, et ils durent quitter aussitôt l'hôtel, car j'entendis le bruit d'une auto qui s'éloignait dans la cour d'honneur. Presque aussitôt, la porte qui donnait sur le petit vestibule s'ouvrit et la marquise parut. « Où a-t-il appris tout cela ?» me souffla-t-elle. « Où a-t-il appris cela ? Pourriez-vous me le dire ? Georges-Marie Vincent a eu une instruction très négligée, d'après même ce qu'il raconte. » Il n'a jamais su me dire le nom de son précepteur alors. Elle avait écouté derrière la porte. C'est donc en vain que, physiquement, elle se portait mieux. L'idée était toujours là. Cette idée absurde qui me faisait la regarder maintenant avec une tristesse infinie. Elle ne se méprit point à mon air. « Je vous fais de la peine, n'est-ce pas ? Christine a dû exciter votre pitié. » Et plus bas, « Elle n'est pas ici, Christine ?»« Non, elle vient de partir. »« Oh, tant mieux, » fit-elle. « Nous allons pouvoir causer. » »« Elle vous a dit, bien entendu, l'idée. » »« Ils me croient tous folles ici. » »« Il y a des moments où je voudrais être morte. »« Oui, morte. » Mais j'ai peur même de la mort. Oui, il y a des moments où j'ai peur de la mort plus que tout. Et je vous dirai pourquoi un jour. À moins que vous ne le deviniez d'ici là, j'ai peur de la mort, j'ai peur de la vie, j'ai peur de Sahib Khan. Celui-là est tout puissant. Il peut tout ce qu'il est possible de pouvoir. S'il avait pu m'arracher l'idée du corps comme on arrache une dent, Ce serait chose faite depuis longtemps. Je l'ai connu aux Indes. Aucune idée ne lui résiste. Pourquoi n'a-t-il pas réussi avec moi? Parce que chez moi, l'idée n'est pas seulement une idée, c'est le reflet de la réalité. Vous comprenez bien. Ce n'est pas une imagination sur laquelle un homme comme Sahib Khan puisse agir. C'est la vérité vivante et naturelle, contre laquelle il n'y a rien à faire. Sahib Khan commanderait à une montagne de disparaître, que l'Himalaya n'en serait point remué sur sa base, n'est-ce pas? Eh bien, il n'est pas plus en son pouvoir de disperser le bloc inséparable, indestructible, jusqu'à ce jour. Le bloc découlterait. M'avez-vous comprise? M'avez-vous comprise? Elle posa sur ma main sa main brûlante. Je vous dis que c'est le même. Ses yeux immenses cherchaient les miens. Je n'osais la regarder pour qu'elle ne vît pas toute la pitié qu'elle m'inspirait. Madame, madame, comment pouvez-vous? Comment une femme comme vous, de votre intelligence? Madame, prenez garde. Il n'y a rien de plus redoutable au monde que le merveilleux. C'est un domaine où se sont perdus les esprits les plus solides. Il y a des idées, madame, avec laquelle il ne faut pas jouer. Jésus-Marie, s'écria-t-elle, ai-je l'air de jouer? Je parle sérieusement. Ceci est un fait. Georges-Marie Vincent n'a reçu aucune instruction. Seul le premier des quatre, disons des cinq, avec celui d'aujourd'hui, seul Louis-Jean-Marie Chrysostome, qui était l'un des plus débauchés seigneurs de la cour de Louis XV, fut aussi une sorte de savant. Je sais, fis-je, avec cela un beau parleur. Il tenait tête à Duclos, il brillait chez D'Holbach, il a écrit des articles pour la grande encyclopédie. Je ne vous apprends donc rien de nouveau, acquiesça-t-elle. Il avait été élevé par les soins de son oncle, l'évêque de Fréjus. Eh bien, monsieur Masson, je vous affirme que la conversation que vous avez eue tout à l'heure avec Georges-Marie Vincent n'aurait pas été possible si Louis-Marie Chrysostome n'avait pas reçu cette éducation-là. Je sursautais. Tout de même, madame, permettez-moi de vous dire que Paul-Louis Courier n'avait pas encore taché d'encre le manuscrit de Longus au temps de Louis XV. Elle pinça les lèvres. « Il ne me manquait plus que vous me prissiez pour une sotte », laissa-t-elle tomber. J'ai voulu dire que sans cette éducation-là, sans les souvenirs classiques qu'elle comporte, Georges-Marie Vincent ne s'intéresserait guère au trésor de la bibliothèque de Florence. « Excusez-moi, madame !» Il y a une chose en tout cas que je puis vous dire et qui m'a en effet toujours étonné, c'est la solidité de cette instruction classique chez le marquis. N'est-ce pas? De nouveau ses yeux brillèrent. De nouveau elle me prit la main. Ah, si vous vouliez être mon ami, mon ami! Je prononçai quelques paroles de dévouement, son agitation subite m'inquiétait. Je regrettais d'être seul avec elle. J'aurais voulu voir apparaître Sangor ou même Sing Sing. Oui, je le sens. Vous me comprenez, vous. Il le faut, ou je ne suis plus que la misérable chose du monde entre la vie et la mort. Ni Sahib Khan, ni Christine ne veulent me comprendre. Christine me prend pour une folle, Sahib Khan pour une malade. Et il me ressuscite. Malgré moi, pourquoi me ressuscite-t-il? Pourquoi me ressusciter pour l'autre? À moins qu'il ne soit son complice, ce que je finirai bien par croire, car enfin, j'ai horreur de toute la vie que Sahib Khan me redonne, au prix de quelle douleur! Et cependant, il m'est défendu de mourir. Mon ami, êtes-vous jamais allé au château de Coulteret? Vous ne l'avez pas visité, non? C'est un château, comme on dit, historique, là-bas, entre la Touraine et la Sologne. La chapelle est un chef-d'œuvre comparable à l'église de Brou. Mais je vous prie de croire que ce ne sont point ces dentelles gothiques qui m'ont attiré, non. Il faut descendre dans la crypte. Là sont les tombeaux des Coulterets, Monsieur Bénédicte Masson, le tombeau de Louis Jean-Marie Chrysostome est vide. Vide, je vous dis. Comprenez-vous ? Mais non, je ne comprends pas. Elle parut excédée de mon insistance à ne pas comprendre. Vide. Et c'est le dernier tombeau des Coulterets. Il n'y en a plus d'autres. On ne meurt plus chez les Coulterets. Mais madame, s'ils sont morts à l'étranger, évidemment, évidemment. Mais je vous répète que le tombeau est vide. Eh bien, la Révolution est passée par là, et combien de tombeaux ? Ça n'est pas cela. Ce n'est pas cela. La Révolution n'a rien à faire là-dedans. Le lendemain du jour où l'on a descendu le corps de Louis-Jean-Marie Chrysostome dans la crypte, on a trouvé la pierre déplacée et le tombeau vide. Ah, et alors ? Comment et alors ? Mais vous ne connaissez donc pas l'histoire des Coulterets. Je vous croyais plus renseigné sur Louis-Jean-Marie Chrysostome. Vous me disiez tout à l'heure qu'il avait écrit des articles pour la Grande Encyclopédie. Il n'a écrit qu'un article, un seul. Et vous, vous ne savez pas sur quoi ? Vous n'en connaissez pas le sujet. Attendez-moi ici, je vais vous le chercher. Elle se sauva, et je restais là, étourdi par cette conversation ahurissante et qui me choquait par son manque de liaison. Que cette femme fût tout à fait folle, cela ne faisait plus maintenant pour moi l'ombre d'un doute. Elle revint quelques minutes plus tard, haletante. « Vite, vite, me jeta-t-elle. Emportez tout cela chez vous, dissimulez ce paquet, lisez et vous saurez tout. Sing Sing est dans l'escalier, Sangor arrive. Adieu. » Elle m'avait laissé sur la table devant moi un petit paquet enveloppé dans un journal de mode et noué d'un ruban noir, je le glissais sous mon veston et je rentrais chez moi. J'étais persuadé que j'allais enfin savoir ce que c'était que l'autre chose. À 10 heures du soir, derrière les volets clos de mon atelier, je lisais encore. Maintenant, je sais ce que c'est que l'autre chose. C'est inimaginable à notre époque. Maintenant, je comprends pourquoi elle me répétait de cet air hagard. J'ai peur de la mort. Elle qui a déjà si peur de la vie. Je comprends le sens qu'elle attachait à cette phrase. Il m'est défendu de mourir. On a frappé à mes volets. J'entends la voix de Christine. Comment ose-t-elle me faire une visite à une heure pareille ? Et pourquoi ? Je vais ouvrir. Elle est accompagnée de son fiancé, Jacques Cotentin, qu'elle me présente. Ils sont allés, par cette tiède soirée de juin, faire un tour sur les quais. Et en rentrant, elle a aperçu de la lumière chez moi. Alors elle est venue me dire un petit bonsoir en passant. Et ils entraient tous deux comme chez un vieil ami de la famille. Jamais je ne l'avais vu de si près, le prosecteur. Je m'en serais fort bien passé, mais l'idée que Christine ne l'aimait pas et qu'elle le trompait, tout au moins moralement avec Gabriel, me le rendait supportable. Je vis qu'il avait de grands yeux bleus de myope, intelligent et pensif sous son air bourru. Je ne sais pas s'il se rendait bien compte qu'il était chez moi. Il me parut voyager dans la lune, comme bien des savants. Mais à son âge, c'était peut-être un genre. « Eh bien, » fit Christine en s'asseyant, « elle vous a donné le paquet, vous l'avez lu ?»« Je viens de la part du marquis vous prier de garder tout cela chez vous, de le détruire. En tout cas, de ne pas le lui rendre. » Ce sont ces papiers-là qui l'ont rendue malade, la pauvre femme. Vous connaissez maintenant le point de départ de toutes ces imaginations. Si je ne m'abuse, le voilà, fis-je en mettant la main sur un opuscule intitulé les plus célèbres broucolaques. Broucolaque est le mot dont se servaient les Grecs pour désigner ce que la superstition moderne désigne sous le nom de vampire. Cet ouvrage, imprimé à Paris sous la Révolution, parlait le plus sérieusement du monde de ces êtres que l'on croit morts et qui ne le sont pas, et qui sortent la nuit de leur tombeau pour se nourrir du sang des vivants pendant leur sommeil. Quelques-uns de ces vampires, dont on citait les noms, retournent repus dans leur sépulture. C'est là qu'on a pu en surprendre un certain nombre, surtout en Hongrie et dans l'Allemagne du Sud. Ils avaient un coloris vermeil, leurs veines étaient encore gonflées de tout le sang qu'ils avaient sucé, et on n'avait qu'à les ouvrir pour voir ce sang couler aussi frais que celui d'un jeune homme de 20 ans. Certains ne reviennent jamais dans leur tombeau, dont ils ont horreur. Ce sont évidemment les plus dangereux, parce qu'il n'y a aucune raison pour que l'on s'en débarrasse jamais. On ne sait plus où les trouver, ils se confondent avec le reste des mortels, dont ils épuisent la vie au profit de la leur indéfiniment prolongée. La seule façon, à peu près sûre, que l'on a de détruire un broucolaque est de réduire sa dépouille en cendres après lui avoir préalablement tranché la tête. Mais comment être sûr que l'on a bien affaire à un broucolaque, à moins qu'on ne le trouve rose et vermeil dans son tombeau? Le dernier nom de broucolaque cité par l'opuscule était celui du marquis Louis-Jean-Marie Chrysostome de Coulteret, dont la vie, surtout dans les dernières années du règne de Louis XV, avait été une épouvante pour les pères de famille qui avaient de jolies filles à marier. Ces honnêtes bourgeois avaient bien cru être débarrassés du monstre à sa mort, mais dès le lendemain, on apprenait que Louis-Jean-Marie Chrysostome avait quitté son sépulcre où il n'était jamais revenu. Nombreux étaient les témoignages de gens qui prétendaient l'avoir vu depuis rôder la nuit autour de leur demeure. Des jeunes filles, des jeunes femmes qui avaient eu l'imprudence de dormir la fenêtre de leur chambre ouverte, étaient retrouvés le lendemain matin dans un état de dépérissement absolu, et l'on n'avait pas tardé à acquérir la preuve par la découverte que l'on faisait d'une petite blessure derrière l'oreille que le vampire était passé par là. Enfin, l'opuscule ajoutait que le destin de ces jeunes personnes était d'autant plus funeste qu'il est avéré depuis la plus haute antiquité que les victimes deviennent vampires elles-mêmes après leur mort. Tous les ouvrages que j'avais trouvés dans le paquet noué d'un ruban noir traitaient du même sujet. C'étaient des histoires horribles et épouvantables de ce qui s'est fait et passé au faubourg Aix-Marcel à la mort d'un misérable broucolaque. Des revenants, des fantômes et autres qui ne veulent ni quitter la terre, des comment se nourrissent les vampires, un traité sur la façon de vivre des broucolaques dans leur sépulcre et hors de leur sépulcre. Enfin, le fameux article de Chrysostome de Coulteret qui avait paru dans la première édition de la Grande Encyclopédie et dans lequel l'auteur parlait des vampires avec une assurance et une science qui eussent effrayé si elles n'avaient fait sourire. On y lisait ceci entre bien d'autres choses. On donne, comme on sait, le nom de vampire à un mort qui sort de son tombeau pour venir tourmenter les vivants. Il leur suce le sang. Quelquefois, il les serre à la gorge, comme pour les étrangler. Toute espèce d'attachement, tout lien d'affection paraît rompu chez les vampires, car ils poursuivent de préférence leurs amis et leurs parents. etc., etc. Vous comprenez, exprima Christine avec un triste sourire, pourquoi le marquis désirait tant voir la marquise se livrer à un autre genre de lecture. Maintenant, vous connaissez toutes ces misères. Mais la pire de toutes est bien celle-ci, pour laquelle il vous demande le secret le plus absolu. Il ne tient pas à être ridicule. Ridicule. Un vampire de nos jours ferait la joie de Paris. Si on apprenait jamais que la marquise croit que son mari passe ses nuits à lui sucer le sang, on ne s'ennuierait pas dans les salons, ni à Montmartre, ni aux revues de fin d'année, je vous prie de le croire. Voilà pourquoi on la surveille tant. Un mot imprudent et Georges-Marie Vincent n'a plus qu'à retourner au Tibet. Comme je ne disais rien, elle continua. Elle ne vous a jamais montré le bobo qu'elle a dans le cou, non ? C'est peut-être qu'il est guéri pour le moment, mais je suis tranquille, au premier bouton qui lui poussera sur l'épaule, vous n'y couperez pas. Mon ami, vous passez maintenant par les étapes qu'elle m'a infligées. Elle vous montrera la petite piqûre par le truchement de laquelle cet affreux marquis lui prend son sang et sa vie. Vous ne riez pas ? Ma foi, non, répondis-je. Le marquis a sans doute raison de craindre le ridicule, mais la plus à plaindre, c'est encore elle, assurément. Vous avez raison, répliqua Christine, en reprenant son air le plus sérieux. Il n'y a plus qu'à prier pour elle. Prier pour elle, répéta une voix qui jusqu'alors ne s'était guère fait entendre. Je fus surpris du ton sur lequel monsieur le prosecteur avait prononcé ces quelques paroles. « Vous ne croyez pas aux vampires, monsieur ?» demandai-je en souriant cette fois. « Monsieur, me répondit Jacques Cotentin, je crois à tout et je ne crois à rien. Nous vivons dans un temps où le miracle d'hier crée l'industrie de demain. Dans tous les domaines, nous nous heurtons à des hypothèses contradictoires. » La science se promène incertaine dans ce chaos de points d'interrogation qu'est notre petit univers. Y a-t-il plusieurs mondes ? Edgar Poe, l'un de nos plus grands philosophes, je parle sérieusement, a prouvé par une série d'équations qui en valent bien d'autres, qu'il y a plusieurs mondes et par conséquent plusieurs dieux. D'autres ont non moins prouvé qu'il n'y en a qu'un seul, mais ils ne sont point d'accord sur lequel. Le dieu de Socrate, de Descartes, n'a rien à faire avec celui de Pascal, ni surtout avec celui de Spinoza. Déisme, panthéisme, où est la vérité ? Et vous me demandez s'il y a des vampires ? S'il est possible qu'un seul Coulteret ait vécu 150 ou 200 ans ? Mais j'en sais rien, moi, monsieur. Continua-t-il de sa voix un peu professorale et qu'en roi une laryngite chronique. Mais ceci est le secret de la vie et de la mort que nous n'avons pas encore pénétré, mais que nous ne nous désespérons pas de violer un jour. Où commence la vie ? Où commence la mort ? Partout, nulle part, ni commencement, ni fin, que voyons-nous, qu'observons-nous ? Des transformations, des mouvements qui recommencent, que nous pouvons appeler les pulsations du cœur de Dieu. Voilà ce que l'expérience déjà nous a appris. Une chose que l'on croit morte n'est que de la vie en sommeil. La science un jour, monsieur, comme nous l'avons fait pour l'électricité avec la bouteille de LED, arrivera à mettre en flacon les éléments de cette vie épars dans ce que nous croyons être aujourd'hui de la mort. Et ce jour-là, nous aurons recréé de la vie. Nous aurons tiré la vie de la mort, comme on pourrait tirer en principe du radium de cette table. En attendant, monsieur, je ne puis dire qu'une chose à Christine. Priez. Priez pour la marquise, priez pour ceux qui ne croient à rien, priez pour moi, et que Jésus, la bonté même, comme répètent les petits enfants, ait pitié de tout le monde. Priez pour moi aussi, fis-je en me tournant vers Christine. Ainsi soit-il, laissa-t-elle tomber, de cet air grave et religieux qu'elle avait quand elle se rendait à la messe à l'île Saint-Louis-en-Lille. Ils me serrèrent la main et me quittèrent.
L-I-T-E-R-A-U-E-S.
Littérature.
Roman.
Mémoire.
Journal.